Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Manuel Valls ne veut plus perdre de temps avec la loi Macron. C'est ainsi que le Premier ministre justifie le recours au 49-3, une méthode radicale qui suscite colère et incompréhension à droite comme à gauche. Dans un instant, le reportage de Stéphane Robert. L'accueil des migrants divise l'Union européenne. La réunion des ministres de l'Intérieur à Luxembourg n'a pas vraiment permis d'avancer aujourd'hui. Le Front National aura son groupe politique au Parlement européen. Une victoire pour Marine Le Pen qui veut attaquer l'Europe de l'intérieur. Nous en parlerons avec notre invitée, la politologue belge Nathalie Braque. Le débat a eu lieu, les Français ne comprennent pas les tergiversations. Manuel Valls s'est montré inflexible aujourd'hui à l'Assemblée. Le Premier ministre engage donc la responsabilité de son gouvernement pour faire passer la loi Macron. Le 49-3, il l'avait déjà utilisé en février pour la première lecture du texte. Manuel Valls se récidive pour mettre au pas les frondeurs socialistes. Stéphane Robert, ce recours à 49-3 n'est pas une surprise, mais la méthode musclée du Premier ministre fait polémique.
Oui, très critiqué, mais ça n'empêche pas Manuel Valls d'afficher sa fermeté, comme à son habitude.
En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. Je vous remercie.
Le débat sur ce texte est immédiatement suspendu.
Le 49-3, donc, comme en février dernier lors de la première lecture, à cette différence près que cette fois, Valls l'utilise avant le début des discussions, ce qui fait bondir de nombreux députés, à commencer par la communiste Marie-Georges Buffet.
C'est la première fois que je vois ça depuis que je suis députée. Donc c'est un déni de démocratie. Enfin, où on est, il faut que la gauche se réveille, hein, vraiment.
Les frondeurs également sont dans une fureur qu'ils ont du mal à contenir, d'autant qu'ont été ajoutées plusieurs dispositions qui irritent leur fibre socialiste, comme la modification de la loi Evin ou le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Pascal Cherki est député de Paris.
Oui, c'est un texte de droite, parce que quand vous plafonnez les dommages et intérêts pour les licenciements abusifs, c'est de droite. Moi, comme député socialiste, j'accepterai une chose pareille. J'accepterai cette mesure de droite que le MEDEF revendique depuis des années et que même Nicolas Sarkozy n'a pas osé mettre en œuvre jamais.
Mais il n'y a pas que l'aile gauche de la majorité qui râle, beaucoup de députés ressentent comme un malaise. Même les radicaux, pourtant légitimistes, commencent à tiquer, à l'image de Roger Gérard Schwarzenberg.
Ceux qui disent c'est une loi de gauche ont une lecture de cette loi qui est un peu bizarre. Il faut qu'ils changent d'opticien ou d'ophtalmo. À l'évidence, ce n'est pas une loi de gauche.
Cet après-midi à l'Assemblée, il n'y avait guère que l'aile droite du PS, les libéraux comme Christophe Caresche, pour défendre ce recours au 49-3.
La volonté du gouvernement et de la majorité, c'est d'être efficace sur le plan économique. Donc il y a un choix à faire. Hein. Le choix, c'est est-ce qu'on veut vraiment lutter contre le chômage ou est-ce qu'on préfère une forme de pureté idéologique qui, par ailleurs, me semble contestable.
Tout le monde, ou presque cet après-midi au Palais Bourbon, était à fleur de peau et se demandait pourquoi cette précipitation. Et il se murmurait dans les couloirs qu'il y avait peut-être dans cette manière d'exacerber les tensions la volonté de faire oublier le voyage de Manuel Valls en avion le soir de la finale de la Ligue des Champions.
Stéphane Robert, merci. Et ce soir sur TF1, Manuel Valls a confirmé l'imminence d'un remaniement gouvernemental. Ce sera demain, mercredi, un ajustement technique, dit le Premier ministre. Il s'agit de remplacer deux secrétaires d'État, Geneviève Fioraso, en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui a quitté le gouvernement pour raison de santé, et Carole Delga, en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation. Carole Delga partie pour diriger la liste socialiste au régional en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. La question migratoire divise l'Union européenne. L'Italie reproche à ses partenaires et notamment à la France de refouler les milliers de migrants de la Méditerranée arrivés sur son territoire. À Vintimille, par exemple, des centaines d'Africains sont bloqués à la frontière, verrouillés par les forces de l'ordre côté français. Pour tenter de trouver une solution, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis à Luxembourg. Aujourd'hui, une réunion qui n'a pas vraiment permis de régler le problème sur le fond, Quentin Dickinson.
On n'en est plus à l'échange d'amabilités acidulées entre Rome et Paris, mais pour autant, le sort des quelques 250 migrants pris dans un no man's land administratif à la frontière franco-italienne n'aura pas été réglé ici à l'occasion de ce Conseil des ministres européens de l'Intérieur. Les ministres français et allemands ont revu leurs collègues italiens à qui ils ont redit qu'il était impératif que les autorités de son pays organisent au plus vite un nombre suffisant de pôles d'accueil de façon à immatriculer les migrants dès leur débarquement sur le sol de l'UE. Pour Bernard Cazeneuve, la solidarité européenne que réclament les Italiens doit s'accompagner du sens des responsabilités.
À Vintimille, la situation est difficile pour l'Italie et elle est difficile pour la France. Et il n'y a pas la France face à l'Italie ou l'Italie face à la France dans une relation d'incompréhension. Il y a une volonté de travailler ensemble. Nos administrations travaillent ensemble d'arrache-pied tous les jours et nos coopérations sont fortes pour essayer de faire en sorte que nous puissions appliquer les règles de l'Union européenne scrupuleusement, mais là aussi en étant dans la solidarité et dans la compréhension. Et nous sommes parlé très franchement de ce sujet. Les choses progressent sur toutes ces questions de façon positive.
Ce que l'Italie rechigne à effectuer, c'est le tri entre réfugiés et migrants économiques, ces derniers devant être ensuite renvoyés dans leur pays d'origine, mesure impopulaire au sud des Alpes.
Quentin Dickinson à Luxembourg, le gouvernement français présentera demain un plan d'accueil des migrants. Le but du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, c'est d'éviter les campements sauvages comme à Calais ou à Paris. Le plan prévoit des places supplémentaires dans les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. À noter qu'à Paris, la majorité municipale de gauche réclame la création d'un ou de plusieurs centres d'hébergement pour les migrants. Après un an d'efforts, Marine Le Pen est parvenue à constituer un groupe politique au Parlement européen. La patronne du FN avait échoué dans son entreprise juste après son succès électoral aux élections européennes. Cette fois, elle a réussi à composer un groupe de 37 élus venus de 7 pays différents, comme l'exige le règlement du Parlement européen. À noter que Jean-Marie Le Pen et son fidèle lieutenant Bruno Gollnisch ne siégeront pas avec Marine Le Pen et ses nouveaux amis. Le nom de ce groupe, Europe des Nations et des Liberté, une tribune de choix pour la présidente du FN. On en parle avec notre invitée, Nathalie Braque, chercheuse en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Nathalie Braque, quels sont les avantages procurés par la constitution d'un groupe parlementaire au Parlement européen ?
Alors, il y en a plusieurs. Donc, la plus importante, je pense, c'est en termes de ressources financières. Donc, les groupes bénéficient d'un budget conséquent pour leur fonctionnement. Ensuite, un deuxième avantage, c'est en termes de visibilité. Donc, seuls les groupes ont des présidents et ces présidents vont à la conférence des présidents qui décident de l'agenda du Parlement. Et ces présidents sont également à l'avant de l'hémicycle et ont beaucoup plus de temps de parole, donc interviennent sur la plupart des sujets. Ensuite, un groupe donne aussi beaucoup plus de poids dans le fonctionnement de l'institution. Donc, ça permettra aux députés de faire des rapports ou d'être ce qu'on appelle rapporteurs fantômes, de participer à la distribution des présidences de commission ou de déposer des amendements en séance plénière. Et enfin, le dernier avantage, c'est en termes de légitimité. Évidemment, ça donne plus de légitimité de faire partie d'un groupe au sein du Parlement.
Alors, on évoquait tout à l'heure les avantages politiques. Ce sont uniquement des avantages en termes de prise de parole ou bien cela va au-delà ?
Ça va au-delà parce qu'en effet, si on participe à la conférence des présidents, ils peuvent peser sur l'agenda. Alors évidemment, le poids dépend de la taille du groupe en cas de vote. Donc c'est un petit groupe, ça reste moins important que le PPE ou les socialistes. Mais néanmoins, le fait de pouvoir se voir attribuer un rapport, par exemple, leur permettrait d'avoir plus d'influence que ce qu'ils en ont à l'heure actuelle.
Et ça va leur permettre, bien évidemment, de porter les sujets qu'ils veulent voir débattus au Parlement européen.
Voilà, exactement. Alors qu'à l'heure actuelle, ils peuvent faire des déclarations ou des speeches en séance plénière ou déposer des motions de résolution. Leurs outils restent assez limités, alors que voilà, quelqu'un qui est rapporteur ou qui peut peser sur l'agenda du Parlement, même de façon limitée, ça apporte davantage d'influence que la situation actuelle.
Ce groupe, il sera complètement isolé au sein du Parlement européen ou alors il peut espérer faire des alliances avec d'autres eurosceptiques ?
Il est possible qu'il parvienne, s'il parvient à maintenir un certain niveau de crédibilité et une certaine durée dans le temps, qu'il parvienne à instaurer des coopérations, soit ponctuelles, soit plus approfondies, en particulier avec le groupe de Nigel Farage, donc qui ne voulait pas faire partie du même groupe que Marine Le Pen, mais maintenant qu'il y a deux groupes séparés, c'est possible que ces deux groupes coopèrent, vu qu'ils sont quand même relativement proches sur un certain nombre de questions.
Mais les eurosceptiques restent malgré tout largement minoritaires au sein du Parlement européen aujourd'hui.
Oui, ils sont largement minoritaires, mais surtout ils sont fortement divisés. Donc vous avez tous les eurosceptiques de gauche radicale qui siègent à l'opposé et qui ne partagent pas forcément les mêmes points de vue sur une série de sujets. Vous avez les conservateurs britanniques et leurs alliés dans un groupe qui sont plus eurosceptiques modérés, euro-réalistes comme ils s'appellent. Et puis vous avez le groupe EFDD, donc Nigel Farage et le mouvement 5 étoiles en Italie notamment, qui sont plus eurosceptiques. Et puis enfin le dernier groupe, donc celui de Marine Le Pen et du PVV, etc., l'Europe des Nations et des Libertés.
Nathalie Braque, ce groupe semble malgré tout plutôt hétéroclite. En fait, ce qui rassemble ces eurodéputés, c'est l'euroscepticisme.
Notamment, donc c'est tous des eurosceptiques de droite, donc compris au sens large. L'intention telle qu'elle a été annoncée, c'est d'avoir un groupe cohérent, solide et durable. Alors, de prime abord, bon, tous les groupes au Parlement européen ont des niveaux de cohésion variables. Donc chaque groupe a des tensions ou des divisions internes, c'est normal. Toutefois, c'est vrai que dans ce cas-ci, il y a des différences quand même assez importantes entre les partis. Et dès la conférence de presse, certains ont vite dit qu'il y avait un accord sur les désaccords. Donc il est fort possible que l'intérêt national, qui fait quand même l'essence de ces partis, risque de causer des problèmes. Et si on regarde sous la législature précédente, par exemple, le PVV et le Front National, qui sont censés être les deux principaux partis, ont voté l'un contre l'autre dans près de la moitié des cas des votes en plénière. Donc, par exemple, le Front National et le FPÖ autrichien s'entendent assez bien en termes de politique, mais dans d'autres domaines, le Front National avec les autres partis ou les autres partis entre eux sont fortement différents.
Est-ce qu'on peut justement évoquer les principaux points de divergence ?
Ça peut aller dans tout. Donc si on regarde le marché intérieur, le PVV et le Front National ont des visions différentes. Donc ils ont voté ensemble dans quasiment 40% des cas. Le PVV et le FPÖ ont encore moins que 40% du temps ensemble sur les questions économiques. Les questions de justice, affaires intérieures, etc. Le Front National est assez éloigné de la Ligue du Nord. Si on regarde sur les valeurs, donc il y en a certains qui sont très libéraux pour des partis de droite comme le PVV qui est pour le mariage homosexuel, avec le parti polonais du Congrès de la Nouvelle Droite qui est extrêmement conservateur sur les valeurs, qui est pour le rétablissement de la peine de mort et contre le mariage homosexuel. À nouveau sur l'économie, certains sont pour un État minimal avec une réduction très forte des dépenses publiques, alors que d'autres sont plus protectionnistes. Certains sont régionalistes comme la Ligue du Nord ou le Vlaams Belang. D'autres sont plutôt pour un État unitaire, un État fort. Donc c'est vraiment, ça va dans tous les sens, une famille assez hétéroclite.
Nathalie Brack, chercheuse à l'Université libre de Bruxelles, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump est candidat à l'investiture républicaine pour la prochaine présidentielle en novembre 2016. Donald Trump a fait fortune dans l'immobilier. Il est le 12e candidat déclaré à l'investiture républicaine. C'est un personnage pour le moins excentrique et dont les chances d'accéder à la Maison-Blanche sont plutôt réduites, Frédéric Carbone.
Donald Trump n'a jamais brillé par sa modestie, et ce n'est pas à 69 ans, après avoir bâti un empire immobilier et être devenu une vedette de la télé-réalité, qu'il va découvrir cette vertu. Et surtout pas en se lançant dans la course à la présidentielle.
I will be the greatest jobs president.
Je serai le plus grand président créateur d'emplois que Dieu a jamais connu. C'est donc en rockstar et au pied du gratte-ciel qui porte son nom à Manhattan que Donald Trump annonce sa candidature. Il a cette tentation depuis longtemps. En 1988, 2000 et 2012, il avait reculé au dernier moment. Là, il rejoint un peloton déjà fort de 12 concurrents chez les Républicains et se déclare clairement anti-Jeb Bush. Personne ne croit réellement en ses chances. Les médias américains se demandent s'il faut le traiter comme un candidat comme un autre. Mais il pourrait perturber le jeu dans les débats télévisés. Pour ce premier rendez-vous test de la campagne, il n'y aura que 10 places et au jeu des chaises musicales, rien ne dit que le tonitruant Donald Trump sera écarté.
Frédéric Carbone, notre correspondant à Washington. Il avait remporté le prix Goncourt 1989 pour son roman Un grand pas vers le bon Dieu. Jean Vautrin est mort aujourd'hui à Gradignan, près de Bordeaux, à l'âge de 82 ans, de son vrai nom Jean Herman. Il avait mené une double carrière dans le cinéma et le roman noir. Retour sur un parcours atypique avec vous, Jérôme Jadoux.
Docteur Herman, le cinéaste, Mister Vautrin, l'écrivain, les deux ont la même bouille ronde et de petits yeux perçants, ainsi qu'un goût pour l'intrigue policière. Après des études de réalisation et un service militaire au département cinéma des armées, Jean Herman devient l'assistant de Rossellini au début des années 60, avant de réaliser 5 longs métrages pour le grand écran, dont « Adieu l'ami », film policier qui réunira Alain Delon et Charles Bronson, des films qu'il signe donc de son vrai nom Jean Herman, un nom qu'en dépit d'une notoriété certaine, il abandonnera pour se relancer dans la littérature sous le pseudonyme Jean Vautrin. Il publie plusieurs polars dans les années 70. La consécration viendra en 1989 avec le Goncourt pour Un grand pas vers le bon Dieu, écrivain populaire, résolument engagé à gauche. Une de ses œuvres phares restera Le cri du peuple, saga sur la commune de Paris, adaptée en BD par Tardy. Des succès littéraires qui ne lui feront pas oublier sa première passion jusqu'à la fin des années 80. il écrit toujours pour le cinéma des scénarios qu'il continue à signer Jean Herman.
Jérôme Jadot, la météo demain, le temps s'améliore au sud après une matinée perturbée. Au nord, le soleil s'imposera rapidement, mais des nuages arriveront en fin de journée sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Nuages annonciateurs d'une dégradation pluvieuse. Les températures maximales 20 à 25 degrés en moyenne. Il fera un peu plus frais le long de la Manche et un peu plus chaud du côté des régions méditerranéennes. 22h15, c'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.